Chapitre 8. Quelques jours plus tard, une épidémie s'abattit sur la ville. Dans la semaine qui suivit, c'est à peine si nous vîmes le docteur Marlowe. Nous n'apercevions que sa queue de pied entre deux portes ou son visage blême lorsqu'il rentrait prendre un repas sur le pouce. Par mesure de prudence, il mangeait seul. « Ne m'approchez pas, les filles !»« Non, toi non plus, Daniel, pas pour l'instant, je suis pestiférée !» Je le trouvais fort courageux et me demandais si plus tard je ferais des études de médecine. Comme ce serait étrange d'avoir passé mes premières années infirmes et de consacrer le reste de ma vie à soigner les malades. Mais depuis que le précepteur de Marie et Cécilia avait pris la mesure de ce qu'il appelait les lacunes béantes de mon éducation, et que Mrs. Marlowe avait décidé de me faire la classe quotidiennement, je me faisais à l'idée qu'un jour, il faudrait bien que je gagne ma vie. Alors le matin suivant, où j'aperçus le docteur Marlowe au moment où il attrapait sa mallette pour sortir, je me penchai au-dessus de la rampe et je lui lançai « Je peux venir avec vous? Je peux vous aider ?» Il leva la tête vers moi et rit « Tu sais, Daniel, s'il y a une personne, une seule, qui peut se promener en ville cette semaine sans aucun risque, c'est bien toi. »« Comment cela ?»« Regarde-toi, » répondit-il. « Je suis certain qu'il n'y a pas de gaillard plus solide à 40 km à la ronde. » Combien d'enfants privés comme toi d'air frais ou d'exercice auraient été capables d'atteindre ton âge sans qu'une seule fois leur mère ait besoin d'appeler le médecin pour les sauver de la mort? Je n'avais jamais vu les choses sous cet angle. Tandis que je méditais là-dessus, il ajouta « Si tu veux te rendre utile, aide ma pauvre femme à distraire Sophie, le temps que l'épidémie soit passée. Il paraît qu'elle ne tient plus en place tellement elle s'ennuie. Et Marie et Cécilia se plaignent de ne pas pouvoir lire une page d'un livre ni aligner deux points de broderie sans qu'elle leur casse les pieds. » Je repensais aux longues heures vides que j'avais dû occuper. « Et si on faisait venir ici la maison de poupée ?»« Ta maison de poupée ?» demanda-t-il tout content. « Tu serais d'accord ?»« Si elle peut être utile, pourquoi pas ?»« Dans ce cas, je vais l'envoyer chercher dès cet après-midi. » Il disparut en coup de vent. Moins de 2 heures plus tard, j'entendis une charrette brinquebaler dans la rue. Je descendis l'escalier 4 à 4, pour tenir la porte, tandis que deux hommes en blouse kaki apportaient le fardeau enveloppé de sa housse de protection d'un vert fané. Ils le déposèrent précautionneusement par terre dans le vestibule, puis ôtèrent la housse. J'entendis derrière moi des cris admiratifs. « Une maison de poupée ?» Sophie arrivait en courant, de l'autre bout du vestibule. « Quelle merveille ! C'est fantastique !» Elle s'arrêta brusquement. « Oh là là, mais elle est parfaite ! Les fenêtres s'ouvrent ! Daniel, elle est vraiment à toi? Et il y a des poupées dedans? » Marie s'approcha en hâte pour la retenir. « Sophie, Sophie, Daniel préférerait peut-être que tu ne tripotes pas la seule chose qui lui vient de chez lui. » Une façon brutale, quoique tout à fait involontaire, j'en suis sûre, de me rappeler que j'avais bel et bien été déracinée. Ces mots me frappèrent. Je scrutais la maison de poupées. Sortie du clair de lune, elle ressemblait plutôt à un jouet qu'au monde miniature qu'elle avait toujours été à mes yeux. Sophie continuait à jacasser. « Oh, Daniel, elle est tellement jolie, cette petite maison. Regarde les minuscules roses peintes autour de la porte. Je peux jeter un coup d'œil à l'intérieur. Oh, s'il te plaît, Daniel. » Je reculais pour lui laisser la place de s'accroupir devant la maison de poupée. Elle souleva le loquet qui bloquait l'ouverture de la façade. « Regarde-moi ça. Regarde ce méli-mélo. Un marin, une fille de ferme et deux princesses. Un joli petit clown et deux brigands moricauds. » Manifestement, avant d'emporter la maison, les hommes en blouse y avaient jeté pêle-mêle les poupées qu'ils avaient trouvées à côté. Sophie jubilait. « Il y a même un petit chien tout pelé. Le pauvre, je vais l'appeler Popsy. » « Il s'appelle Topper, » corrigeai-je. Il leva les yeux vers moi. Elle leva les yeux vers moi, honteuse de son audace. « Oh, pardon, Daniel. Bien sûr, tu leur as déjà donné des noms. Il n'y a pas de mal, les poupées sont là pour que tu joues avec. » « Mais il faut que tu me les présentes. » Alors je passai tous les noms en revue, la laissai ouvrir toutes les portes et regarder dans les chambres aux murs tapissés. « Ça, c'est la chambre de Hal. Non, plutôt celle de Rubiana. Je vais la mettre au lit maintenant. Elle doit être fatiguée après un pareil voyage. Si les histoires que Sophie inventait pouvaient lui faire passer le temps, tant mieux. » Lorsque Mrs. Marlowe revint de ses visites de bienfaisance en ville, je lui dis que l'on pouvait mettre la maison de poupée là où Sophie voulait. Chapitre 9. Elle fut installée dans le petit salon, devant la porte-fenêtre. Sophie était aux anges. Dans la dernière phase de l'épidémie, alors que les malades les plus résistants commençaient à se remettre, Elle jouait avec les poupées qu'elle avait trouvées jetées n'importe comment dans la petite maison. Je l'entendais imiter les jappements de Topper, le chien, furieux après la jolie Rubiana qui ne cessait de la sticoter, ou les coups frappés à une porte par le prince Hal découronné. Que de fois j'étais restée accroupie comme elle dans le clair de lune à inventer le même genre de conversations enfantines et d'histoires sans queue ni tête. Heureusement qu'il n'y avait que des araignées pour m'entendre et rougir à ma place. Lorsque la porte du salon était ouverte et que Sophie me voyait passer, elle m'appelait pour me faire jouer le rôle d'une des poupées. Un matin, je ne pus y échapper. « Alors toi, tu serais Topper. » Elle me colla le chien dans la main et me fit avancer vers lui la poupée en pince à linge. Il grognerait très fort parce qu'il aurait très très peur de Mrs. Hawthorne qui arrive. « Mrs. Colightly. » rectifiai-je. Le rouge lui monta aux joues. « Oh, que je suis bête. Désolée, Daniel. » Elle semblait tellement penaude que je m'en étonnais. « Pourquoi dis-tu que tu es bête, Sophie ?»« Parce que... » Elle paniquait, mais je l'encourageais à continuer. « On ne la voyait que par-dessus le portail du jardin, tu comprends ? Nous ne connaissions pas son vrai nom. » Je ne comprenais rien à ce qu'elle me racontait. Les poupées ne sortaient jamais. Sophie poursuivit. « Ce n'était pas par manque de respect, mais ta mère, nous ne la voyons que dans le jardin. Et comme ta maison est connue sous le nom de Hawthorne Cottage, nous l'appelions Mrs. Hawthorne, entre nous. Nous ne savions pas que son vrai nom était Cunningham. » J'étais abasourdie. « Sophie, mais de qui parlons-nous, de ma mère ou d'une poupée ?»« Des deux. Comment ça, des deux ?» Elle parut surprise que je sois trop stupide, moi aussi, pour comprendre. « Eh bien, regarde, c'est son portrait tout craché !» Détaillant la poupée de bois, je vis pour la première fois la ressemblance. Le même regard intense et direct, les mêmes yeux noirs perçant un visage fin, la même robe d'une simplicité très étudiée. J'avais imaginé sans doute que toutes les poupées de bois du monde étaient les mêmes. S'il n'y avait pas eu autant d'illustrations dans mes livres, j'aurais pensé aussi que toutes les mamans du monde se ressemblaient. Mais c'était logique. La maison de poupée avait été construite comme une réplique exacte de la maison d'enfance de ma mère. Alors qu'y avait-il de si étrange à ce que les poupées représentent des membres de sa famille ? Si ça se trouve, en vieillissant, ma mère s'était mise à ressembler à une des grand-mères que j'avais forcément eues. Pourtant, pour connaître la vérité là-dessus, il aurait fallu que je la brutalise, car à chaque fois que je la questionnais sur son enfance ou sa famille, elle m'opposait tantôt des flots de larmes, tantôt un silence obstiné. Sophie me dévisageait avec tant d'inquiétude que pour la rassurer et lui redonner confiance, je répondis par une boutade. « Et vous avez passé combien d'heures, tes sœurs et toi, à espionner par-dessus notre portail ? Vous auriez dû aller plus loin dans l'allée pour épier votre Mrs. Hawthorne. Vous l'auriez bien mieux vu à travers le trou que Mrs. Parker avait fait dans notre haie. » Sophie gloussa et m'attrapa la main pour l'amener jusqu'à terre. « Allez, Daniel, on joue. Comment veux-tu que ce chien jappe comme il faut s'il reste suspendu en l'air ?» Je me prêtai donc à son jeu. Avec plaisir, d'ailleurs. Mais la simple évocation de Mrs. Parker avait relancé la machine et dédié la langue de la jeune Sophie. Pendant les 2 heures suivantes, elle n'arrêta pas. Elle me raconta que les dames du voisinage avaient toujours trouvé ma mère bizarre, une femme seule, n'ayant aucune amie, et ne cherchant nullement à s'en faire. Mais du jour où l'une d'elles me vit dans le jardin, les commérages reprirent de plus belle. Le garçon boucher assurait que dans ses livraisons, il y avait bien trop de viande pour une veuve toute seule. « Une veuve toute seule, » intervins-je d'un ton docte, « et surtout une veuve en bois, maigre comme une pince à linge. »« Oh, arrête de me faire marcher !» s'écria Sophie, avant de me raconter comment Mrs. Parker et Miss Gott avaient envoyé une délégation chez son père pour le convaincre d'aller examiner le jeune infirme tout pâle qu'elles avaient aperçu dans le fauteuil en osier. « Sa famille n'a peut-être pas les moyens de payer la visite du médecin, » avait-elle précisé. « Mais ne vous en faites pas pour cela. Nous nous engageons à régler vos honoraires, si vous pensez que cela peut aider cet enfant. » Alors, le docteur Marlowe était venu sonner à notre porte, se découvrant poliment devant ma mère. Celle-ci s'était montrée tout à fait aimable, jusqu'au moment où elle avait compris qui était le père de Sophie et pourquoi il venait. Dès lors, ses yeux s'étaient mis à lancer des éclairs, et elle lui avait claqué la porte au nez. « C'est vrai ? Ma mère a claqué la porte au nez du docteur Marlowe ? Les gens ne parlaient plus que de ça ! Là-dessus, bien sûr, ils ont commencé à se demander si elle avait toute sa tête. En quelques jours, ils avaient inventé un stratagème pour la tirer hors de la maison. Et c'est comme ça que papa a pu s'introduire chez vous et aller le voir. » Je fus submergée par un flot de pensées contradictoires. Certes, je ne regrettais pas d'avoir été, que fallait-il dire, sauvée, libérée de mon confinement dans ce réduit. Mais je savais que ma mère détestait que l'on fasse intrusion dans sa vie. Et comme je l'aimais beaucoup, j'avais l'impression de l'avoir trahi. Voilà sans doute pourquoi j'essayais de tourner en dérision cet événement qui avait bouleversé l'existence de ma mère. Sophie, tu es une véritable mine d'informations. Si jamais j'ai besoin de savoir quoi que ce soit sur moi-même, je saurai à qui m'adresser. Tu te moques encore de moi. Allez, on reprend le